C'est une nouvelle édition de l'économie en question en compagnie de trois invités pour commenter l'actualité de ces derniers jours. Nous parlons d'Europe aujourd'hui autour des dernières décisions de la Banque Centrale Européenne dont le président Mario Draghi poursuit sa politique d'assouplissement quantitatif engagée il y a près d'un an maintenant. Autour aussi des interrogations que soulève une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Jeudi, une enquête auprès des entreprises donnait un certain nombre de points de vue dont nous allons parler. Autour encore de l'inflation et autour enfin d'une drôle de proposition qui fait son chemin. Même Mario Draghi justement en parle, proposition censée voler au secours d'une relance bien poussive de nos économies. On aimerait bien connaître l'avis de nos invités sur ce point. C'est dans un instant. Car notre sujet avec tout cela, tout simplement, comment se porte l'euro? Et nous sommes en compagnie d'Agnès Benassi-Quéret, économiste, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, professeure aussi à Paris 1 Dauphine. Catherine Mathieu, économiste senior au département analyse et prévision de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Olivier Pastret, professeur d'économie à l'Université de Paris 8. Et puis nous aurons en toute fin d'émission la chronique de Marie Bellan, journaliste aux Échos. Notre partenaire, c'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Paris 1, c'est pas Dauphine, hein, nous le savions, mais pardon Agnès. On va donc commenter ces actualités diverses, je ne sais pas par laquelle vous souhaitez commencer quand même le vrai débat au fond lorsque l'on veut parler de la santé de l'euro. C'est cette discussion, j'allais dire, récurrente entre politique budgétaire, politique monétaire. Je me souviens d'une note du Conseil d'analyse économique en 2014 où déjà Agnès Benassi-Quéret avec quelques confrères vous appeliez à davantage d'assouplissement et peut-être une politique plus expansionniste pour permettre de donner un peu de souffle à nos économies européennes. Vous êtes toujours sur cette position. Petit tour d'horizon pour vous trois.
Sur la politique monétaire, on peut dire qu'on a été comblés. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que malgré cet assouplissement monétaire qui est exceptionnel, l'inflation ne redémarre pas. C'est-à-dire qu'on a, alors l'inflation en général, c'est pas très grave parce que dedans il y a le prix du pétrole qui brouille un peu les choses, mais l'inflation qu'on appelle sous-jacente, hein, c'est-à-dire hors les prix très volatiles comme le pétrole, eh bien, est collée juste en dessous de 1%. Et l'objectif, c'est quand même 2%. Donc c'est embêtant parce que ça empêche de réduire les dettes publiques, ça pèse sur la demande. Et donc, on voit aujourd'hui que la Banque Centrale Européenne, toute seule, n'arrive pas à relever ce taux d'inflation. Alors qu'on était habitué dans la zone euro, on nous avait appris que l'inflation, c'est du ressort de la BCE et la croissance du ressort des gouvernements. Et là, maintenant, on a l'impression que les gouvernements devraient venir au secours de la BCE pour l'aider à atteindre son objectif d'inflation. Parce que ça entraînerait des effets positifs sur la croissance. Mais voilà, on a cette séparation entre politique monétaire et politique budgétaire. On se rend compte aujourd'hui qu'elle est inopérante.
Et donc, ça pose des questions. Et plusieurs économistes, je cite Patrick Artus, qui vient souvent nous trouver ici aussi, commencent à critiquer justement cette politique de liquidité excessive des banques centrales. La nôtre, enfin la BCE et d'autres encore, ça commence à faire débat parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Olivier Pastret.
Non mais d'abord, Agnès Benassi est merveilleuse parce qu'elle est quand même très jeune. Arriver à dire aujourd'hui, non mais par rapport à moi, arriver à dire aujourd'hui, notre rêve c'est l'inflation. Je rappelle que dans ma génération, l'horreur absolue et la construction de la BCE, c'était contre l'inflation.
Donc, il y a très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps. Il y a une dizaine d'années, c'était l'obsession, c'était de ne pas avoir l'inflation. Aujourd'hui, c'est pourvu qu'on ait un peu d'inflation. C'était juste une remarque. Après, sur la question, si on ne comprend pas que la politique budgétaire et la politique monétaire n'ont plus aucun sens en Europe, on ne comprend rien. Je prends les sujets les uns à la suite des autres. Politique budgétaire, plus aucun pays européen n'a de marge de manœuvre budgétaire. Alors après, est-ce qu'on fait 3-8, 3-20
Agnès Benassi fait déjà l'amour, elle va nous dire.
Et elle a tout à fait raison. C'est pas parce qu'il y a une contrainte budgétaire très forte qu'on peut pas faire des choses. Donc je ne suis pas du tout fataliste. Hein. Mais en tout cas, la politique budgétaire au sens traditionnel du terme n'existe plus. Et la politique monétaire, on peut mettre des kilotonnes de liquidités Si les banques ne prêtent plus et que les chefs d'entreprise ne veulent plus investir, ça ne servira strictement à rien. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on passe à d'autres réformes qu'on évoquera peut-être au fil de la discussion, qui est ce qu'on appelle les réformes structurelles, ce qui veut rien dire en soi, mais qui est comment est-ce qu'on fait que les États européens soient plus efficaces.
Catherine Mathieu.
Alors sur la question de la politique monétaire, je dirais effectivement comme Agnès qu'on ne peut être que satisfait de tout ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne pour soutenir la croissance maintenant.
Ce que vous réclamiez, plusieurs d'entre vous.
Voilà,
oui.
Voilà, on était nombreux.
Pas tous, mais nombreux.
C'est très bien, ça n'a aucun effet, mais c'est très bien.
Alors c'est après, la question c'est qu'en principe, si ça doit avoir un effet, effectivement, cette politique monétaire qui est devenue plus expansionniste. Alors, sur le point, par contre, de la politique budgétaire, moi, contrairement à vous, Olivier, je pense que la politique budgétaire a toujours un grand rôle et qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas de croissance actuellement dans la zone euro, c'est qu'on a pratiqué des politiques budgétaires trop restrictives, particulièrement depuis le début de la crise, et qu'on a laissé à la politique monétaire seule le soin de relancer la croissance. Et c'est ce problème de policy mix qui n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la politique monétaire ou espérer la politique monétaire, espérer d'elle qu'elle permette de relancer la croissance seule, alors qu'on demande à tous les pays de réduire leurs dépenses publiques, de réduire leurs déficits. Et c'est aujourd'hui le cas.
Agnès Benassi-Kerré,
J'ai la position médiane, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement la politique budgétaire a été trop restrictive dans les années 2011, 12, 13, qu'aujourd'hui elle est neutre. On pourrait vouloir plus d'expansion.
Trop restrictive, allons un peu plus loin, quelle manière? Prenons deux, trois exemples.
C'est-à-dire qu'on a une rechute de l'activité en fin 2011 et 2012, on a une rechute très nette de l'activité et on a continué à ajuster comme des fous pour revenir à l'équilibre le plus vite possible. Et ça a été inefficace parce qu'en fait, si le PIB s'effondre, eh bien le ratio, le rapport entre la dette et le PIB n'arrive pas à descendre puisque le dénominateur s'effondre plus vite que le numérateur. Je pense que ces années-là, c'était en effet une erreur, mais qu'aujourd'hui, c'est pas le problème principal. Et donc là, je rejoins Olivier Pastré. Au niveau agrégé, on a une politique budgétaire qui est assez neutre. On pourrait vouloir plus de déficit en Allemagne. C'est peut-être ce qu'ils vont faire avec la crise des réfugiés, dans une certaine mesure. Mais c'est pas vraiment là que se situe le problème. Par contre, ce qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va nous arriver si on a de nouveau une rechute. Si en fin 2016...
Parce qu'on aurait épuisé un peu tous nos arguments. On a épuisé,
la politique monétaire, on a tout fait. Les petites budgétaires, on
n'a
pas de marge.
À l'os.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est là que se pose la question. Quand même, l'Europe, dans son ensemble, on continue à se comporter comme une succession de petits pays contraints, alors que nous devrions être une grande puissance non contrainte, comme les États-Unis.
Catherine Mathieu puis Olivier Passeret.
Oui, j'aimerais réagir sur le fait que on n'ait pas de marge en matière de politique budgétaire. Mais si, bien sûr, on a des marges. On n'a pas de marge parce qu'on s'est fixé des règles à l'intérieur de la zone euro d'avoir des déficits publics les plus faibles possibles, de les ramener à l'équilibre, en fait, quelle que soit la situation conjoncturelle des pays, et de réduire les dettes publiques. Mais ça, c'est une contrainte qu'on s'est fixée nous-mêmes. Et aujourd'hui, on pourrait très bien dire que c'est nécessaire. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on relâche la politique budgétaire dans un certain nombre de pays. Ou, prenons le cas de la France, par exemple. On est aujourd'hui toujours en train de chercher à réduire les déficits. On a des impulsions budgétaires très négatives, aujourd'hui encore en France. Alors qu'on a très peu de croissance, alors qu'on n'a pas d'inflation, alors qu'on a un chômage élevé. Mais aujourd'hui,
on a
il faudrait.
Une pression budgétaire très négative en France.
Tout dépend. Alors, on peut entrer dans un débat un peu plus technique sur les mesures de croissance potentielle qu'on peut avoir. Et si on n'entre pas trop, on est quand même sur une impulsion négative en France d'au moins de l'ordre de 0,5 points de PIB.
Si on vous entend bien, Catherine Mathieu, pour vous vouloir réduire les déficits dans une période de non-croissance ou de croissance un peu trop faible, ça bloque la reprise, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Et on n'en sort pas.
On n'en sort pas. Non. Et on est les seuls, alors que les États-Unis, par exemple, n'ont jamais fait ça. Dès qu'il y a une situation de crise économique aux États-Unis, on utilise à la fois la politique monétaire et la politique budgétaire pour relancer la croissance. Là, et dans la zone euro, on laisse filer les dépenses.
Là, Olivier c'est un scoop mondial. C'est que les États-Unis sont un modèle de gouvernance économique. Ce pays qui est le plus endetté au monde, qui fait absolument n'importe quoi depuis 40 ans, tout simplement parce qu'ils ont une monnaie qui s'appelle le dollar, est un modèle. Non, c'est pas un modèle. Keynes sort de ce corps. Je m'adresse à Catherine Mathieu. Probablement qu'on aurait là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'on aurait dû faire un peu plus de déficit budgétaire au début de la crise, comme l'ont fait les États-Unis.
Oui, laisser
aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Alors après, c'est vrai que la règle des 3% de déficit budgétaire est complètement débile. N'importe quel économiste normal, c'est forcément un énarque qui a fait ça. Mais c'est la réalité politique.
Dis pas ça.
Ce que je raconte. Pardon?
Non, rien.
Mais c'est la réalité politique. C'est-à-dire, cette règle de 3%, elle est complètement absurde. Et en même temps, elle est disciplinaire. Elle fait aussi que les États qui ont tendance à faire quand même généralement n'importe quoi en Europe aussi, ne font pas ça. Quant à la politique monétaire, moi j'ai un immense problème. On a une contradiction absolue. Et pour moi, ce point, ce que je vais dire, est extrêmement important et très mal perçu, évidemment, par les médias et aussi par beaucoup d'économistes. On a une contradiction entre la politique monétaire et la politique de réglementation bancaire en Europe. La politique monétaire dit on va mettre du fric, en gros à 0%, et la politique réglementaire dit, ça s'appelle Bâle 3 sur le plan technique, dit vous pouvez pas faire de crédit. Donc les banques reçoivent de l'argent en Europe, où elles financent l'économie, contrairement aux États-Unis, et elles ne peuvent pas faire de crédit. Donc il y a un vrai problème. Je pense que la politique monétaire laxiste, easing, est absurde aujourd'hui, parce qu'il y a des règles de prudentiel pour les banques qui ne permettent pas de mettre en œuvre cette politique monétaire.
La vocation d'une politique monétaire, c'est bien de soutenir l'activité économique, c'est de surveiller les taux d'intérêt et de les baisser pour qu'on puisse quand même réduire, si possible, le coût du crédit, encourager les gens à consommer et à investir.
Le crédit, c'est une partie tout à fait mineure du bilan des grandes banques françaises. Hein. Donc, il ne faut pas non plus surestimer l'impact des régulations bancaires sur leur appétit à distribuer du crédit. D'ailleurs, en France, ça s'est plutôt mieux passé que dans d'autres pays.
Je voulais
revenir sur les règles idiotes. Dans tous les pays fédéraux, il y a des règles idiotes hein, au niveau des États, plus idiotes encore que chez nous, plus strictes. Mais c'est compensé par un budget fédéral qui est en charge de faire les coups d'accordéon nécessaires pour stabiliser l'activité. Et là, la difficulté qu'on a en Europe, c'est qu'on a laissé les États tout seuls face à la fois la nécessité de la discipline et à la fois tout seul face aux fluctuations de l'activité, la nécessité de stabiliser l'activité. Et ça, on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à faire les deux. Et donc, il va falloir un jour penser à séparer les objectifs.
Oui, mais ça, Agnès, ça fait de nombreuses années qu'un certain nombre d'entre nous montrent qu'il y a ce problème en union monétaire, telle qu'en tout cas on l'a construite dans la zone euro, d'avoir une politique monétaire unique et d'avoir laissé des politiques budgétaires nationales autonomes, mais devant respecter ces règles qui n'ont aucun sens sur le plan économique. Et on n'a jamais essayé de mettre en place dans la zone euro des règles budgétaires qui tiendraient compte justement des situations conjoncturelles différentes des pays. On aurait très bien pu dire que dans certains pays, on peut avoir des déficits qui se creusent et dans d'autres, il faut réduire les déficits en fonction de la situation en matière de demande interne et d'inflation dans les pays. On ne l'a jamais fait dans
c'est
la zone
un peu
euro.
Le cas.
Et résultat, on a laissé se créer des divergences. On a les divergences qui se creusent dans la zone euro. Aujourd'hui, la Grèce est dans une situation catastrophique. L'Espagne n'est pas dans une très bonne situation non plus. Enfin, on n'a pas du tout réussi à faire une zone euro ni qui permette aux différentes économies de converger ni de se stabiliser.
Alors, venons-en à la monnaie. On ne peut pas dire que la divergence de la Grèce soit due à l'impossibilité pour la Grèce de faire des déficits. Enfin, sa divergence est allée de pair avec un creusement des déficits incroyable. Donc, c'est plutôt, bon, on pourrait discuter du plan d'ajustement en Grèce hein, qui en ferait semblablement mis trop l'accent sur l'ajustement budgétaire et pas assez sur la concurrence qui aurait permis de faire baisser les prix plus vite et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Mais je pense que la question de la divergence est une question de plus long terme qui ne touche pas nécessairement uniquement la politique budgétaire.
Oui. Un mot sur le... Oui, pardon, Olivier Passeret.
Non, mais j'espère que ça va faire le lien avec le Brexit, parce que, sur le fond, là, on est en train de parler de gouvernance de l'Europe. Comment est-ce qu'on fait ? Je veux dire, on a une Banque Centrale Européenne qui fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire pas grand-chose, compte tenu des règles qui s'appliquent aux banques. Et là, je ne suis pas d'accord avec Agnès, mais c'est un autre sujet. Et sur le plan de la politique budgétaire, on a des positions qui sont, et je suis d'accord avec vous, parfois complètement absurdes. Comment est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai une proposition à faire. Je saute une étape qui est l'étape du Brexit, qui est qu'on ait un ministre du Travail européen.
un ministre du Travail européen.
Comment est-ce qu'on fait pour rendre plus efficace la mécanique européenne? Et est-ce qu'on le fait avec l'Angleterre ou sans l'Angleterre? Voilà, ça c'est un des sujets du jour.
Le CAE rêve aussi d'une politique plus globale.
Alors nous, on fait la différence entre...
Et de donner davantage de moyens à l'Union, surtout.
On fait la différence entre la convergence des marchés du travail et l'harmonisation des marchés du travail. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en Italie, en Espagne, peut-être bientôt en France, il y a des réformes importantes du marché du travail qui visent à réduire ce qu'on appelle la dualité du marché du travail, c'est-à-dire le fossé entre les contrats courts et les contrats à durée indéterminée. Et chaque pays suit une voie différente. Et l'Allemagne en a suivi encore une autre. Et donc, l'objectif doit être la réduction de la dualité. Mais le moyen peut varier d'un pays à l'autre. Je trouve ça très sympathique d'avoir un ministre européen du Travail, mais je ne suis pas complètement sûre que ce soit qu'un projet d'harmonisation totale soit vraiment ce dont on a besoin.
Ça, voilà. Je suis d'accord avec vous.
Alors,
disons pas un ministre, c'était entre guillemets, disons un pouvoir européen pour essayer de faire en sorte que les évolutions aillent dans le sens de l'objectif qui est de réduire la dualité.
Oui, mais là, tout dépend de quel pouvoir européen.
Catherine Mathieu. Et de quelle?
Quelle Europe on souhaite? Et justement, ça fait un lien avec le Brexit d'ailleurs, hein, parce que les Britanniques qui ont fait le choix justement de ne pas entrer dans l'Union monétaire, qui ont gardé la livre, qui sont en train actuellement de débattre sur leur souhait ou pas de rester dans l'Union européenne, posent clairement ce genre de questions. Hein, quel type d'Europe on veut? Quel type d'intégration des marchés? Vers quel type d'Europe on veut aller? Est-ce qu'on veut aller vers une Europe très libérale ou pas? Est-ce qu'on veut maintenir certains systèmes de protection sociale ou pas? Il y a de nombreuses questions qui se pose. Alors, avant d'atteindre l'échelon fédéral, il faut peut-être déjà se mettre d'accord sur quel type d'Europe on souhaite.
C'est peut-être la partie positive dans cette affaire quand même qui secoue beaucoup l'Europe, nous obliger à réviser un peu nos fondamentaux et faire bouger les lignes parce que tout simplement le Royaume-Uni se pose ces questions-là et nous oblige à nous les poser. Alors, je rappelle juste ce vote en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a eu cette fameuse réunion du Conseil européen du 19 février au cours duquel ils ont déjà pas mal obtenu. On verra la suite. Je voudrais parler d'une enquête, elle est sortie en milieu de semaine, je crois que c'était mercredi ou jeudi, demandée par le patronat, la Confédération britannique de l'industrie, en gros les très grandes entreprises, tous vent debout à 80% en tout cas contre cette perspective, quels que soient, disent-ils, les accords commerciaux que le pays pourrait bien négocier avec ses anciens partenaires européens. On peut quand même imaginer qu'il y aura des accords à terme. Mais leurs chiffres sont quand même préoccupants. On parle de 100 milliards de livres, c'est-à-dire près de 130 milliards d'euros, que coûterait à l'économie britannique ce départ et près d'un million d'emplois à un horizon quand même assez lointain, pas tant que ça d'ailleurs, de 2020. Catherine Mathieu, vous êtes spécialiste notamment du Royaume-Uni, c'est aussi les perspectives que vous envisagez?
Non, pas vraiment.
Dans le cas d'une sortie
Alors, dans le cas d'une sortie, je pense qu'effectivement, on mettrait très rapidement en place des accords entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne. Tout d'abord parce que c'est vraiment un grand partenaire commercial pour nous, le Royaume-Uni, et aussi parce que pour les Britanniques, les marchés européens, ça représente 50% de leur marché, donc ça sera très important.
Nous sommes de très gros clients.
Donc très rapidement, on mettra en place des accords commerciaux. Alors, je pense qu'effectivement, pour aller un peu dans le sens de l'étude, sur la période transitoire, ça poserait un certain nombre de problèmes pour les entreprises le temps qu'on mette en place de nouveaux accords, que toutes les règles soient bien posées à plat. Mais je ne pense pas qu'à moyen terme, on aurait vraiment un impact économique aussi important que le suggère l'étude. En fait, très probablement, enfin c'est toujours très difficile d'essayer d'imaginer quels seraient les impacts économiques de ce genre de situation. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ce sera vraiment le premier cas qu'on a. C'est vraiment le grand saut dans l'inconnu.
Ah oui, c'est très inédit, évidemment.
On n'a pas vraiment de moyens de savoir, mais je pense qu'en gros, l'impact économique, enfin, de mon point de vue, serait nul à terme.
Oui, d'autres analystes d'ailleurs vous rejoignent un petit peu, Moody's notamment, dont on sait que leurs notations sont très surveillées. Probable, nous disent-ils, que beaucoup d'entreprises réduiraient leurs investissements, mais jusqu'à ce que les implications d'un Brexit deviennent claires commerce, pour l'investissement,
c'est une question de transition,
tout devrait se remettre en place.
Tout à fait.
Et pour la monnaie alors, puisqu'on parle des monnaies.
Pas complètement d'accord avec ça.
Agnès Benassi-Carré.
Je pense qu'il ne faut pas la limiter au commerce. Je pense qu'il y a une espèce de contradiction que vont devoir affronter les Britanniques, parce que s'ils veulent avoir accès au marché européen, alors il faut qu'ils rentrent dans l'espace économique européen. Mais s'ils deviennent comme la Norvège, eh bien, ils n'ont pas accès au marché financier européen. Ils n'ont pas le passeport européen. Enfin, c'est plutôt comme s'ils sont sur la Suisse. S'ils sont comme la Norvège, Norvège, ils ont accès au passeport financier, pardon, mais ils n'ont pas du tout de possibilité de négocier des accords de libre-échange avec qui ils veulent. La Norvège ne négocie avec personne. Elle applique le tarif extérieur européen. Donc, comme c'est leur volonté affichée de pouvoir faire des accords commerciaux mirobolants avec des grandes puissances en croissance, eh bien, il ne faudrait pas être comme la Norvège. Donc, il faudrait plutôt être comme la Suisse. Mais la Suisse n'a pas le passeport financier européen. Et donc, pour la City, c'est un énorme problème de ne pas pouvoir accéder à tout le marché européen, vendre des services financiers à tous les Européens sans avoir des établissements, des filiales dans les pays en question.
Oui, pas si simple. Mais beaucoup de points restent assez flous. Oui, Catherine, je suis du moins pessimiste sur cette question financière parce que je pense que vu le poids de la City et tous les liens financiers qu'il y a actuellement entre la City et les autres bourses et de façon générale, hein, entre les établissements bancaires en Europe, on trouverait le moyen de faire tout fonctionner facilement.
Olivier Pastret, sur ce point.
Mais je pense qu'il y a trois sujets qui sont assez disjoints. Un, est-ce qu'on sait s'il va y avoir ou non Brexit ? C'est-à-dire comment le peuple anglais va voter. Il y a 6 mois, tout le monde disait, il n'y a aucun problème, ils diront oui à l'Europe. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais en même temps, on ne peut pas savoir ce qui se passe.
On rappelle que ce sera en juin.
Deux, est-ce que le 23 juin, est-ce que philosophiquement, il faudrait que les Anglais partent ? Évidemment, oui. Parce que, je veux dire, moi, je ne peux plus les supporter. Je veux dire, c'est leur règle leur règle diplomatique, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que je prends tout ce qu'il y a de bon, je ne paie pas. Non. Donc, philosophie. Et après, géopolitiquement, pas du tout économiquement, parce que sur le fond, la sortie le Brexit n'aurait pas d'impact majeur, ni positif ni négatif. Et par contre, géopolitiquement, c'est vrai que c'est une image donnée au monde de début d'éclatement de l'Europe, à un moment où les pulsions centrifuges sont quand même extraordinairement fortes, qui serait très mauvais. Donc il faut espérer qu'ils ne sortent pas.
Allez, je voudrais qu'on termine.
Mais je souhaite qu'ils sortent.
Votre entretien sur ce point que j'ai mentionné très brièvement, en faisant un petit peu un suspense. Mais voilà, cette proposition qui paraît comme ça un peu fantaisiste, et si les banques centrales, je parle des banques centrales, distribuaient, au lieu de donner le quantitative easing, donc de donner toutes ces liquidités aux banques pour qu'elles puissent permettre aux autres d'investir ou de dépenser, et si les banques centrales donc distribuent un chèque à tous les citoyens au lieu d'inonder justement ce système financier. Ça paraît comme ça un petit peu fantaisie. C'est une idée, je le rappelle, qui revient à Milton Friedman, qui est un économiste extrêmement libéral, je crois qu'il l'avait donnée pour la combattre d'ailleurs, pas pour la soutenir, et qui fait son chemin et qui a été reprise, puisqu'on vient de parler du Royaume-Uni, par Jeremy Corbyn, député de gauche, qui est à la tête aujourd'hui du Parti travailliste. Donc ça s'appelle la monnaie hélicoptère. Voilà, un concept intéressant. On nous distribuerait à chacun d'entre nous ce qu'il faut pour à nouveau dépenser. Agnès Benassi, Karel.
L'idée, c'est qu'en
effet, relancer bien sûr notre économie.
La Banque centrale peut créer la monnaie. Donc c'est très tentant qu'elle crée de la monnaie pour justement relancer l'activité directement. Normalement, elle crée la monnaie en échange de créances sur l'économie, les États, etc. Et là, l'idée, c'est qu'elle crée de la monnaie, qu'elle crédite donc tous les comptes des particuliers dans la zone euro. Donc, par exemple, elle vous met 2000 euros sur votre compte. Donc, s'il y a 250 millions de comptes environ de particuliers dans la zone euro, ça fait quand même une stimulation de 50 milliards d'euros. Donc, c'est quand même tout à fait substantiel.
50 milliards, ça nous rappelle quelque chose. Dans le plan Juncker, on voit les mêmes sommes.
Et alors la difficulté, c'est, il y a beaucoup de difficultés évidemment, c'est qu'elle acquiert une créance sur vous et moi et qui ne sera jamais remboursée et qui ne rapportera aucun intérêt. Donc on voit bien qu'il y a quand même il n'y a pas de solution miracle. Hein. Et donc elle fait une perte et cette perte peut être assimilée à un financement monétaire des gouvernements puisque finalement normalement c'est les gouvernements qui font les transferts aux personnes, aux ménages. Donc c'est une solution extrêmement séduisante. Parce que justement, ça permet de contourner ce que disait Olivier Pastret tout à l'heure, qui est que là, elle prête aux banques qui ne prêtent pas. Donc, il faut bien les contourner, ces banques. Et donc, l'idée, c'est de donner, en fait, directement aux ménages. Alors, quand même, il faudrait que les ménages dépensent. Et elle ne peut pas cibler les ménages qui vont dépenser. Donc, on va donner de l'argent à Mme Bettencourt qui ne va pas forcément le dépenser.
C'est pas sûr qu'elle le dépense tout de suite, en tout cas. Mais même les autres, on sait qu'on a tendance à épargner aussi beaucoup. Catherine Mathieu, très, très vite. Un avis sur cette proposition qui n'est pas si fantaisiste que ça. Je répète qu'elle fait son chemin.
C'est débile.
Moi, je la trouve trouve plutôt fantaisiste.
Vous ne l'avez pas encore dit. Ce n'est pas ce que nous a dit Agnès Benassi et ce n'est pas ce que pense le collectif d'associations et d'économistes européens qui soutiennent la campagne du quantitative easing for people.
Et c'est même plus large que ça, parce que quand on voit les dernières déclarations de la Banque Centrale Européenne, de Mario Draghi et d'autres...
Je rappelle que Mario Draghi a dit qu'elle était séduisante.
Donc, c'est quand même très étonnant. Pour moi, c'est très étonnant, cette proposition, parce qu'en fait, encore une fois, on dit depuis de nombreuses années aux États, il faut réduire les dépenses publiques, il ne faut pas faire de politique budgétaire active. Et puis, en fait, aujourd'hui, cette proposition, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit à la Banque Centrale de justement... faire une politique budgétaire, ce qu'expliquait Agnès à l'instant. On met de l'argent sur les comptes des ménages et puis on espère, on aimerait, enfin le point c'est qu'il faudrait qu'ils dépensent, mais pourquoi passer par tout cet artifice ?
Au fond, c'est un signe d'impuissance,
c'est
peut-être,
c'est un signe d'impuissance et il faut à un moment donné reconnaître qu'il faut mettre en place des politiques budgétaires de soutien de la demande.
Donc débile, Olivier Pastré aussi.
J'ai bien dit débile. C'est comme quand Manuel Valls dit qu'il faut supprimer le code du travail. Enfin, bien sûr qu'il faut supprimer le code du travail. Bien sûr qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie auprès des gens qui sont pauvres et pas de Mme Bettencourt. Sauf que c'est dans ce cas-là... techniquement pas possible. Donc arrêtons de fantasmer. Je rappelle qu'il y a un problème qui est un problème pour l'Europe, on n'entend pas parler, c'est pas le sujet de l'émission, qui est les réfugiés. Je dirais que c'est le seul sujet. La politique monétaire, la politique budgétaire et le Brexit me paraissent comparativement un sujet relativement limité. Et pour les problèmes d'immigration et de réfugiés, il y a la même préoccupation, c'est quel est le pouvoir de l'Europe. Et de quelle Europe, sans l'Angleterre, bien évidemment, ça c'est le vrai sujet.
Mais on y reviendra, merci quand même, on a fait un bon sujet, il me semble, sur la politique monétaire et la politique budgétaire, j'y insiste. Merci à tous les trois et on enchaîne avec la chronique de Marie Belland. Pour faire plaisir à Olivier Passeret, elle revient précisément sur la loi travail.
Voilà, le code du travail, la loi El Khomri. Sous la pression de la rue et des syndicats, donc le gouvernement a réécrit... en catastrophe, là, il y a donc 2 semaines, son projet de loi sur la modernisation du marché du travail. Mais il se pourrait bien qu'il soit à nouveau obligé de revoir un petit peu sa copie. Alors, présenté ce jeudi en Conseil des ministres, le texte a en effet en partie raté sa cible. S'il répond plutôt bien aux demandes, bon, que l'on peut juger légitimes ou pas, hein, mais des formulées par les grands groupes, bon, je pense notamment à la possibilité de signer des accords qui vont pouvoir déroger à la loi, le fait que les grands groupes pourront mieux sécuriser leurs procédures de licenciement économique, y compris lorsqu'elles font des profits à l'étranger, le projet de loi, en revanche, est beaucoup moins fourni sur le volet des PME. Or, c'est plutôt sur ce segment d'entreprise que l'on peut espérer des créations d'emplois en cas de reprise économique. Alors, le gouvernement est tout à fait conscient de cette lacune. C'est pourquoi il cherche à prendre de nouvelles mesures, par amendement par exemple lors du débat parlementaire, pour redonner davantage de flexibilité ou de sécurité juridique aux PME comme elles le demandent. Alors, pas question pour autant de réintroduire le barème des prud'hommes, mais ça serait un casus belli avec la CFDT, donc on oublie. Et d'ailleurs, toute la difficulté sera de trouver des mesures à la fois efficaces pour les PME et qui soient acceptables par les syndicats, puisque les premières veulent avant tout pouvoir négocier des accords directement avec leurs salariés, sans passer par les syndicats, et les seconds, les syndicats, eux, ils voient la menace être court-circuitée. Ce qui est une crainte un peu paradoxale, puisque les syndicats sont de toute façon déjà absents des TPE et des PME, dont les centrales syndicales se fichent d'ailleurs royalement. Donc c'est un petit peu curieux. Alors, dans ces conditions, que reste-t-il comme piste de réforme ? Eh ben, pas grand-chose en réalité. On parle d'un élargissement éventuel de ce qu'on appelle le rescrit social, qui permet de valider un accord social auprès de l'administration en amont, pour être sûr qu'il ne sera pas attaqué en justice. On parle aussi de mesures pour inciter salariés et employeurs à recourir à la médiation juridique en cas de conflit, plutôt que d'aller directement au prud'homme. Bon, on le voit, ce sont 2 pistes quand même assez limitées. En réalité, pour les chefs d'entreprise de PME et de TPE, le vrai bol d'oxygène ne viendra pas tant de la loi El Khomri que des nouvelles baisses de charges qui doivent intervenir d'ici quelques jours. Je vous le rappelle, le 1er avril, c'est le 2e volet du pacte de responsabilité.
À suivre.
Voilà, on parle cette fois-ci de baisses de charges qui concernent quand même tous les salaires allant jusqu'à 2,5 SMIC, ce qui n'est pas négligeable, et qui aura, je pense, un effet certainement beaucoup plus visible et beaucoup plus rapide sur les créations d'emplois que la refonte du droit du travail telle qu'elle a été engagée par le gouvernement.
Eh bien, merci beaucoup Marie Belland pour cette chronique Marie-Belle Andez, Écho, donc journal partenaire de notre économie en question. Merci Catherine Mathieu, Agnès Benassiquer et Olivier Pastret qui étaient avec nous aujourd'hui, et à notre équipe de réalisation, Anne Pérez Franchini en compagnie d'Alain Joubert, et bien sûr pour la préparation, Laurence Genepin, préparation documentation. Venez nous retrouver sur notre site si vous souhaitez faire des commentaires. Et je voulais aussi revenir sur ce concours La Parole aux étudiants dont France Culture se fait l'écho avec grand plaisir. C'est le Cercle des économistes qui en est à l'origine. Jusqu'au 3 avril, tous les étudiants sont invités à déposer un texte. Qu'attendez-vous de la France? Voilà le commentaire qui leur est proposé. Il y aura une sélection et on les retrouvera à Aix pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, désormais célèbre. Très bonne journée à tous, à samedi prochain.